RMC, le dossier des GG.
Alors le dossier des GG aujourd'hui, nous allons nous intéresser au monoxyde de carbone. L'utilisation de ce gaz potentiellement létal par au moins 3 équipes cyclistes avait été révélée l'été dernier pendant le Tour de France. 3 équipes dans lesquelles figurent celle de Tadej Pogacar et celle de Jonas Vingegaard, les deux premiers de la Grande Boucle. Cette semaine, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, a demandé et avait demandé à l'AMA, l'Agence Mondiale Antidopage, de prendre position sur l'inhalation du monoxyde de carbone. La réponse est intervenu vendredi. Oui, il y a un sujet, mais l'instance n'est pas en mesure d'interdire cette pratique controversée. Le monoxyde de carbone, le cyclisme court-il un grand danger? Avant de débattre avec vous les GG, de vous entendre attentivement, notamment Marc Madiou et Jérôme Pinault, on retrouve notre spécialiste vélo Arnaud Souk. Bonjour Arnaud.
Salut les amis.
Alors pour l'instant, c'est circulé, il n'y a rien à voir.
Oui, alors rappelons d'abord un clamat à la responsabilité de bannir les pratiques et les produits dopants dans le monde du sport. Elle a donc confirmé avoir pris connaissance de la question du monoxyde de carbone, mais selon elle, il n'existe pas de consensus général ni de données solides sur la question de savoir si cela peut avoir un effet d'amélioration des performances. Pourtant, l'UCI avait de son côté clairement demandé dans un premier temps aux équipes et aux coureurs de ne pas recourir à l'inhalation de cette substance de manière répétée, ajoutant que seul l'usage dans un environnement médical contrôlé était acceptable. L'utilisation du monoxyde de carbone dans le cyclisme avait été révélée cet été par un site internet spécialisé. Donc, tu l'as dit, Jean-Christophe, parmi les équipes concernées, Israël Premier Tech, mais aussi UAE Team Emirates de Tadej Pogacar et Visma Lease Bike de Jonas Vingegaard. On se défend du côté des coureurs et des équipes de toute pratique qui poserait problème. On avance finalement pour Pogacar et Vingegaard qui se sont personnellement exprimés sur la question. Une utilisation à des fins de test pour savoir comment le corps réagit à l'altitude. Sauf que l'UCI se demande de son côté si le protocole ne pourrait pas être détourné par le biais d'une utilisation répétée pour créer une hypoxie artificielle en recréant les effets d'un effort en altitude, ce qui maximise les bienfaits des stages donc réalisés par les cyclistes. Juste pour terminer, si l'UCI l'interdit, je ne l'utiliserai plus jamais, explique Jonas Vingegaard, assurant au passage qu'il n'utilisait le protocole que pour savoir justement si les camps d'altitude fonctionnaient ou non.
Merci beaucoup Arnaud Souk, tu restes avec nous pour ce débat. Évidemment, le monoxyde de carbone, le cyclisme court-il un grand danger? Sachez que dans quelques instants, un pharmacien et responsable de la rubrique Front du dopage, Marc Kluzinski, sera notre invité pour tenter d'expliquer et savoir si ce produit peut être considéré comme un produit dopant. Le monoxyde de carbone, le cyclisme court-il un grand danger? Marc Madiou.
Oui, on est en danger. Tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'on va encore mettre 5 ou 10 ans avant de régler l'histoire, là, parce que le temps que l'AMA, l'UCI, les enquêtes, les tests, les supputations se mettent en place, on en a au moins pour 5 ou 10 ans. Alors là, aujourd'hui, on fait état de 3 équipes qui utilisent ou qui ont utilisé cet appareillage. Alors moi, je mets mon billet que de 3 équipes, on va bientôt passer à 5, 6, 7. Puis à 10, puis à 15, puis à 80 ou 90% du peloton.
Tu vas l'utiliser donc ?
Mais je n'ai pas du tout l'intention d'utiliser. Je vais te dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et c'est le message que j'ai fait passer au président de l'UCI, parce qu'il y avait un séminaire cette semaine à l'UCI. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu m'y rendre. La situation, elle est très simple. On est dans ce monde du cyclisme, une bonne vingtaine d'équipes, on va dire 25 équipes, qui faisons 100% du grand calendrier mondial. Alors il y a une chose qui est très simple et très facile, c'est de se dire, nous les patrons d'équipe, on s'engage par écrit et sur l'honneur à ne pas utiliser cette méthode, qu'elle soit bonne, mauvaise, qu'elle apporte un bénéfice ou qu'elle n'apporte pas de bénéfice, on s'en fout. On s'engage à ne pas acheter cet appareillage et à ne pas l'utiliser. Moi, je suis prêt à signer.
C'est le principe du MPCC, ça.
Oui, non, mais.
Corticoïde, par exemple. Qui n'a pas été signé par tout le monde.
Ah, ben, qui n'a pas été signé par tout le monde et surtout qu'on a mis 10 ans à réguler. Donc, c'est simple. On prend un papier, on prend un crayon ou on le fait par voix vocale pour bien s'affirmer. Moi, je vous dis, devant les auditeurs de RMC, dans mon équipe, personne n'utilisera cet appareillage. Je m'y engage.
Même si les 19 autres le font.
Même si les 19 autres le font. Voilà. Et j'invite mes collègues d'équipe à avoir la même attitude. Si les 25 patrons d'équipe, les 25 principaux patrons d'équipe dans le monde disent on n'utilise pas cette méthode, on n'utilisera pas cette méthode. Dans le peut-être bien que oui, peut-être bien que non, faut qu'on teste, faut qu'on essaye, faut qu'on voit dans 5 ans, on y est encore et on est plombé, on est mort. Voilà.
Est-ce que je peux poser une question à Marc
Vas-y, Pascal.
en fait, moi, est-ce que tu es comme moi ? Moi, j'ai l'impression qu'on se fout vraiment de notre gueule, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de nous expliquer que des hommes, des champions, pour évaluer si le stage en altitude a été bénéfique, ils vont jusqu'à prendre des gaz qui sont... Le gaz est létal.
Ils pourraient
en mourir. Non, mais on se fout pas de notre gueule, là. Donc, est-ce que tu peux répondre à ma question ? C'est bien pour augmenter la performance
évidemment.
Des coureurs que ces gaz-là sont utilisés.
C'est pas
des fins d'évaluation.
S'il n'y avait pas quelque part l'idée d'améliorer la performance, on ne serait pas dans cette attitude. Donc, c'est simple, c'est clair. Il faut dire non, on ne cherche pas à savoir combien d'apports ça va donner aux coureurs. C'est stop, c'est niette. Tout le monde s'engage et on s'engage les uns envers les autres. On est capable de se dire autour d'une table, on est capable de se réunir à 25 patrons d'équipe et de se dire les yeux dans les yeux.
Tu crois à ce que tu dis ?
On n'utilise pas.
Et tu penses vraiment
Alors, l'étape suivante, c'est à l'ITA de faire le gendarme et de veiller à ce que personne n'utilise.
Oui, mais là
quelle
aussi,
est la dernière décision
pas.
La dernière décision, Marco, que vous ayez tous pris en commun et où tout le monde était d'accord.
Il n'y en a pas.
Ah, voilà.
Oui, donc c'est
parce que le premier qui va vouloir.
En fait, que tu formules,
là où je ne comprends pas vos instances.
C'est un vœu pieux, mais au moins essayons. Parce que là, si on repart dans des études, dans des analyses, dans des machins, dans 5 ans, dans 10 ans, ni encore.
C'était le cas avec les cétones, c'était le cas avec les tramadol, c'est une vieille histoire avec la cortisone. Et moi, il y a quelque chose qui résonne dans mes oreilles. C'est ce qui résonne dans mes oreilles aujourd'hui et ce qui fait écho à ce que dit Marc, c'est qu'on va en revenir encore une fois au même patron d'équipe. Les mêmes qui te disent, moi mes coureurs ils font attention, ils sont pas à la bière, mais les tiens ils prennent des cétones, de la cortisone probablement et du monoxyde de carbone. Ces gens-là de toute façon ils vont te tourner le dos dès que tu vas vouloir prendre une décision parce qu'ils sont là pour le profit et pour leur gloire personnelle. Et si on n'est pas vigilant comme le dit Marc, laisse-moi finir Pascal, les instances, parlons-en et ça pourrait faire une émission complète les instances dans le vélo en ce moment. Ce qui moi m'inquiète, c'est les coureurs. Les coureurs et leur staff parce que ils sont chez eux, les mecs. Et à se faire dominer comme ils se font dominer, me revient à la tête certaines paroles de mes copains quand j'avais 21, 22, 23 ans. On ne va pas y aller avec notre couteau. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des dérives. Parce que tout Marc qu'il est, il le sait. Il va tout faire bien. Mais s'il a 2-3 gamins qui ont un peu les dents qui raillent le parquet, et que quand ils étaient juniors, il leur mettait des volets et qu'il arrive sur le tour et qu'il n'arrive plus à suivre, ils vont déconner. Ils vont tester le truc tout seul. Et là, il va y avoir des dérives. Il va falloir que vite le cyclisme et que les instances, Pascal, là je te réponds, se remettent en ligne avec l'essence même de notre sport, c'est-à-dire l'effort physique et pas le profit. Et j'espère que notre président, qui est français, de l'UCI, a bien compris que ce rôle-là, c'est pas pour faire du fric et se faire un réseau pour aller plus haut. C'est bel et bien de régler les problèmes qui sont au sein de son sport et il y en a énormément.
Marc, je vais me tourner vers toi, Christophe. Tu es commentateur du cyclisme. Tu vas avoir, dans les semaines qui viennent, à commenter les plus grandes épreuves, notamment celle du mois de juillet. Comment vas-tu commenter quand tu sauras qu'un certain nombre d'équipes utilisent ces méthodes par rapport à d'autres équipes? Comment tu vas faire toi ton commentaire sur le tour?
Alors on est avec Arnaud puisqu'on commente tous les deux et c'est un problème qu'on a régulièrement quand on commente le Tour de France. On a toujours des interrogations. Ça peut d'ailleurs occasionner quelques frictions entre nous, entre ceux qui disent moi j'y crois en moyen, mais on a toujours au fond de nous. J'ai quand même connu les années 90 où tout le peloton.
Mais là tu suspectais, mais là tu le sais. Là tu le sais, il s'en cache pas.
Là, tu le sais, là.
Là, tu le sais, mais moi, j'aimerais bien.
Mais pour l'instant, personne ne dit c'est du dopage ou pas.
Que les gens de
l'AMA
arrivent à nous expliquer en quoi. Moi, j'aimerais bien qu'on comprenne et que le grand public comprenne les effets que peut avoir ce truc. Est-ce que c'est considéré comme un produit dopant? Je voudrais bien qu'on nous l'explique. Comment ça marche?
Et ben
comment ça fonctionne? Pour qu'on sache si c'est vraiment du dopage ou non. Parce que là, c'est un peu nébuleux, tout ça.
Et ben justement, nous allons accueillir Marc Kluzinski, pharmacien et responsable de la rubrique Front du dopage du magazine Sport et Vie. Bonjour Marc.
Oui, bonjour à tous. Bonjour aux journalistes, aux intervenants et aux auditeurs. Je rejoins naturellement les avis de Marc Madiot et Jérôme Pinault. Ce qu'on peut dire, c'est que On a en face de nous des gens qui ne sont pas des enfants de cœur, qui cherchent, bon, je parle du UAE, Jumbo, voire Israël. Ils sont devenus des spécialistes du contournement de la liste des interdictions de l'AMA. On peut dire des spécialistes des méthodes et substances de la zone grise. Et cette utilisation du monoxyde de carbone que j'appellerai dans la suite de mon intervention CO, elle n'est pas nouvelle. Elle a été utilisée en 2006 par l'équipe T-Mobile. Bon, il s'agit de faire respirer aux cyclistes 5 fois par jour 100 ml de CO pendant 3 semaines. Mm-hmm. Bon, l'AMA n'a pas l'air d'être au courant de l'amélioration.
Et qu'est-ce que ça produit alors? Qu'est-ce que ça produit de respirer, d'inhaler comme ça 5 fois par jour des doses de monoxyde de carbone? Qu'est-ce que ça produit dans le corps? Est-ce que ça a des effets sur le corps, justement sur la puissance d'un coureur cycliste?
D'accord, bon, ça met le corps en hypoxie. Il y a 5% d'HBCO, l'hémoglobine liée au monoxyde produit. C'est pas dangereux. Tout au plus, on peut avoir quelques maux de tête. Par contre, bon, l'amélioration, c'est 4,8% en plus de la masse totale de l'hémoglobine, 13,8% sur l'hématocrite, le pourcentage de globules rouges, et après que le monoxyde de carbone se soit évacué de l'organisme, au bout de 3 semaines, on a une augmentation du VO2 max de 3%. Bon, cette étude, je vous cite les chiffres d'une étude qui a été réalisée en 2020 par le professeur Wolfgang Schmidt, un Allemand. Bon, rien ne dit que les équipes UAE et autres, les deux autres, Jumbo et Israël, ont utilisé ce protocole. On peut très bien supposer, vu les performances réalisées cette saison par Pogacar et même Vingegaard, que les doses inhalées étaient supérieures.
Ok, on ne peut pas le contrôler, en fait. C'est ça le problème.
Bah c'est pas interdit. Pour l'instant, c'est pas interdit.
Jérôme veut intervenir et après, je vous redonne la main.
Moi, j'ai une question, et puisqu'on est entre nous, on va se poser des questions comme entre copains. Docteur, si imaginons, parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas, que les grands stages et les longues périodes en altitude de la part de ces grands champions, de ces grandes équipes, profitent à deux choses. Créer ce besoin en hémoglobine et donc de mettre le corps en échec pour qu'il produise et qu'on puisse avoir ce taux d'hématocrite qui remonte. Mais imaginons qu'il n'y ait pas que des gens très honnêtes et qu'on fasse aussi quelques prélèvements sanguins et donc qu'on repratique les transfusions sanguines en microdose. Et est-ce qu'on peut imaginer que le monoxyde de carbone puisse accompagner et augmenter et développer encore un peu plus longtemps, parce qu'on sait que la problématique, c'est de redescendre du stage d'altitude et qu'on soit permanent sur long terme. Est-ce que les deux pratiques associées pourraient permettre d'augmenter considérablement les performances de certains coureurs?
Oui, naturellement. Et je pense que l'utilisation du monoxyde de carbone n'est pas la seule pour expliquer les performances actuelles de la dernière saison. Hein. L'étape du plateau de Bay par Pogacar, bon, il bat le record de Pantani, bon, à près de 7 watts par kilo au bout de 200 km. Bon, il n'y a pas que le monoxyde de carbone. Mais ce qui est étonnant dans cette méthode, c'est que les équipes utilisent le calcul de la masse totale de l'hémoglobine. Et tout ça pour voir si au bout de 3 semaines de mise en hypoxie par le monoxyde de carbone, ils sont encore dans les clous du passeport sanguin. Donc il est bon, l'utilisation de ce calcul de la masse totale de l'hémoglobine, je vous répète que il est interdit par les experts du passeport sanguin, parce que justement il faudrait faire respirer du monoxyde de carbone aux cyclistes, qui est contraire à l'éthique. Donc, ces équipes utilisent un procédé qui n'est même pas autorisé aux experts du passeport sanguin. Bon, là, on est en pleine c'est le monde à l'envers.
Alors Marc Kuzinski, pharmacien et responsable de la rubrique Front du dopage du magazine Sport et Vie, je le rappelle. Une question toute simple, dernière question toute simple. Est-ce que pour vous, c'est du dopage ?
Mais naturellement, c'est du dopage. La méthode répond bien à ce que dit Lama. Hein, toute manipulation intravasculaire du sang par des procédés physiques ou chimiques, bon, elle est dans les méthodes de dopage classées en M1.3, c'est bien sûr du dopage.
Ok, c'est du dopage. Alors,
oui, pourtant, on a compris que Lama et l'UCI n'ont pas vraiment envie de se pencher sur le dossier en disant qu'il n'y a pas de certitude.
T'as compris que Lama et l'UCI avaient beaucoup de mal à aller contre ces deux équipes-là. Ça fait un moment que ça dure quand même. Hein.
C'est...
Oui, mais il ne faut plus compter sur Lama pour être le gendarme de l'antidopage. Lama a perdu sa crédibilité depuis des années, depuis l'affaire Armstrong, le dopage d'État en Russie, les couvertures de cas positifs par... l'athlétisme du temps de Lamine Diak, les 23 nageurs chinois positifs à la trimétazidine avant les JO de Tokyo. Lama n'a plus aucune crédibilité. Elle est là, comme dit le docteur, disait le docteur Alain Garnier, qui avait osé critiquer Lama dans la conduite de l'affaire Armstrong. Il s'est fait vider après. Lama est là pour gérer le dopage, pour qu'il ne nuise pas au sport. Donc,
c'est très grave ce que vous dites, Marc. Est-ce que tu abondes un peu en ce sens ?
Je suis pas suffisamment dans les instances pour pouvoir avoir un avis sur la situation. Moi, je vois une situation aujourd'hui où une méthode qui améliore la performance tend à se développer. Aujourd'hui, elle est encore utilisée de manière embryonnaire par quelques équipes. Je sais par nature que si on ne fait rien, ça va se développer et ce sera de pire en pire.
Et là, voilà. Tu dis c'est pire que le PO dans les... On est mort ?
C'est pas pire. Enfin, le problème, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui que ça existe, mais comment on va pouvoir apprécier et mesurer la qualité des performances ? Comment vous, les commentateurs sportifs, vous allez pouvoir faire ? Si vous savez que telle et telle équipe utilise et que telle ou autre équipe n'utilise pas, vous allez faire deux classements ?
Mais en plus, Marc, on parle d'une histoire. On parle d'un sport où il y a eu un tel passé. Enfin. La solution de Marc, elle est claire. Si tu veux retourner vers la crédibilité, redonner de la crédibilité à nos athlètes et qu'on puisse autour de la table se dire « Mais oui, mais il était bon quand il était jeune, c'est normal qu'il soit dominant. » Mais il faut déjà passer par là. C'est à nous les équipes, à vous maintenant, et c'est à eux de se mettre autour d'une table et de dire « Stop, on ne fait pas ça, comme ça au moins on est tranquille. » Mais il a des collègues, la moitié, qui quand ils vont sortir de la salle, ils vont dire « Ah non, mais lui, il est gentil le petit français, mais nous, là où il faut que ça tombe, donc ces conneries, nous on fait ce qu'on veut. » Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Et c'est
pareil avec les cétones, c'était pareil avec la cortisone, c'était pareil avec le tramadol, et c'est pas fini.
Ok, Pascal.
Mais en étant tous à l'eau claire, les classements seraient les mêmes. Donc pourquoi ? Ils n'ont pas intérêt. Ils gagneraient autant de fric, Pogacar, s'il était à l'eau claire, et si tout le peloton était à l'eau claire. Donc moi, en fait, je te donne un avis. Je suis un passionné de sport. J'adore le vélo, le Tour de France. Je le manquerai pour rien au monde. Mais cette année, quand j'étais dans ma bagnole et que j'écoutais mes collègues, j'avais envie de leur téléphoner, leur dire « Vous foutez de ma gueule ou quoi ?» Pogacar, il se fout de la gueule du monde. Et bon, on voit qu'il est dopé. C'est impossible les performances qu'il réalise.
Pascal, juste, on peut pas dire ça. C'est ton sentiment et tout ça, mais on peut pas dire que Pogacar est dopé. Enfin,
je sais pas. J'ai l'impression.
Moi, je peux pas non plus te laisser dire que sans dopage, les classements seraient les mêmes. Ça, ce n'est pas possible d'entendre ça non plus.
Non.
Moi, j'ai fait des Tours de France à la flotte, tous à la flotte. J'ai fait des placements 27e. Il y avait des mecs devant moi qui se sont fait choper. Je suis pas sûr que j'étais moins bon qu'eux, sans dopage. Moi, j'en suis pas sûr. Faut réussir à me le prouver. Demande à Marc. J'aimerais bien qu'il s'exprime. Si
parce qu'il y a une partie du peloton qui n'est pas dopé. Pas...
Ah oui, il y a une bonne partie du peloton qui fait bien son métier.
Certains
coureurs de chez Marc. Un bon petit coureur qu'on a dû entendre parler en qui on a énormément d'espoir, qui s'appelle David Gaudu. Je vous signale que David Gaudu, tout sert à l'un. Il l'entend aussi. Il dit, mais attends, je vais aller, moi, 6 semaines en altitude, je vais aller 3 mois loin de ma famille, c'est mon job, ok. Mais quand je suis sur la ligne de départ, certains sont autorisés à des pratiques qui sont dans la zone grise. Moi, mon patron me dit, non, parce que je suis un mec, mais le mec, il perd ses moyens aussi à cause de ça. Et ça, il faut le mettre en place. Tu peux dire ça, Pascal. Tu peux pas dire
oui,
ce serait le même classement. C'est faux. C'est faux.
Après, j'arrive pas à expliquer comment les instances, et notamment l'UCI, par exemple, qui a la possibilité de dire non, on n'utilise pas. Ils ont là, cette latitude. Votre président français de l'UCI, il peut dire non.
Le monoxyde de carbone, il peut dire non, mais il ne peut pas le faire sans la main.
Voilà, et aujourd'hui, on a traité hier avec l'affaire du tennis et du dopage et des contrôles dans le tennis. Aujourd'hui, les instances internationales et l'AMA, ils sont sur les freins, surtout tout ce qui concerne
et
le dopage.
Et
ils ne veulent surtout pas se mêler de ça, surtout.
Parce qu'il y a des gros risques juridiques.
Mais en plus, moi, est-ce que un David Gaudu, justement, Marc, vient te voir ? Est-ce que tes coureurs soupçonnent les autres en disant c'est pas possible ?
Non, objectivement, non. On est.
Donc ils acceptent.
Vous en parlez jamais.
Non, qu'on n'en parle pas, mais on est dans des compétitions. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. On s'entraîne le mieux possible en respectant les règles. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce qui se passe en ce moment, c'est de mettre mes coureurs dans les meilleures conditions possibles et d'être le plus à égalité possible avec la concurrence. C'est un problème de crédibilité. Comment peut-on au-delà du résultat brut de la course, comment peut-on être crédible? Comment peut-on être crédible pour attaquer la saison qui arrive si on sait que certaines équipes utilisent ce type de méthode et que d'autres équipes ne l'utilisent pas? C'est un problème de crédibilité de notre sport, parce que les gens devant leur écran de télévision vont forcément se faire la réflexion: est-ce que celui-là il respire du monoxyde de carbone? Est-ce qu'il a le nez dans la gazinière pour respirer du charbon? Arrêtez un moment.
Et toi, Marc, aujourd'hui, dans les grandes gueules du sport, tu demandes à tous tes collègues, tous les patrons d'écurie, de vous réunir et de stopper le monoxyde de carbone.
Mais on peut très bien le faire, c'est facile.
C'est fini.
C'est facile, c'est simple de se dire: allez, les gars, on se réunit, on se met autour de la table et on dit stop. C'est dur de faire ça ? De dire stop ?
Ben, faut croire que oui.
Ah oui, c'est très dur pour
puisqu'ils
certains.
Qu'ils le font pas. Mais c'est pour ça que quand tu Jean-Christophe, quand tu me reprends, quand tu me dis tu peux pas dire que Pogacar il est dopé, mais pourquoi il y en a qui le font et d'autres qui le font pas? Rien que le fait qu'il y ait des équipes qui le fassent pas, ça légitime que c'est l'histoire, elle est pas très très claire. Enfin, quoi.
En plus, en disant stop,
on se grandit.
Exactement, tu sors grandi.
En disant stop, on se grandit tous.
Et tu décrédibilises l'AMA, qui fait beaucoup de mal au cyclisme. Pourquoi? Parce que si tu prends ta décision, toi, tu dis bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas capable d'avancer vite parce qu'on sait pourquoi vous n'avancez pas très vite, ça vous profite à vous, donc nous on va le faire. Parce que l'AMA cette année, elle a eu deux cas à traiter importants. Elle a suspendu à vie Franck Bonamour, puisqu'il a décidé d'arrêter sa carrière, parce que la lenteur du processus a ruiné Franck. Il a dû vendre un bien personnel pour se défendre, pour au final aboutir sur rien. Donc Franck Bonamour, dopé, pas dopé? Moi je dis non. Eux, ils disent, on ne sait pas, c'est à toi de prouver. Donc, il arrête sa carrière. Il y a quand même encore du dopage dans le vélo, puisque le vice-champion U23 de contre-la-montre, un Polonais, a été pris positif à l'EPO la semaine dernière. Ça, l'AMA, il est capable de le faire. L'AMA, il montre des choses voyantes, et derrière, comme ça, il est tranquille avec les grands, parce qu'à qui profite le crime? Évidemment, tout ça, c'est une question de gros sous aussi.
Ok, en tout cas, c'était très passionnant de vous écouter ce matin sur ce dossier, le monoxyde de carbone. Et forcément, vous êtes bien placé pour en juger. Vous êtes dans ce milieu et on a compris l'appel de Marc et on espère qu'il aura une résonance. Évidemment, on remercie Marc Luzinski d'avoir été avec nous, pharmacien et responsable de la rubrique Front du dopage du magazine Sport et Vie. Merci beaucoup, Marc. On refera peut-être un autre dossier et on se permettra de vous rappeler. En tout cas, merci d'avoir été avec nous.